Bonjour, vous allez bien? Nous allons, avant de commencer, nous placer devant Dieu, ouvrir nos cœurs et lui demander de prendre toute la place, ici et maintenant. Merci. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta bonté et ton amour, et nous te disons merci pour ta présence dans ce lieu ce matin. Nous savons une chose, Seigneur, c'est que tu parleras encore à nos cœurs. Et ils sont ouverts pour entendre ta voix, ils sont ouverts pour entendre ton conseil. Merci, Seigneur, parce que tu nous instruis pour notre bien. Et merci encore parce que ce matin, tu ne failliras pas. Seigneur, je me mets à ta disposition, je te donne mon cœur. Seigneur, afin que tu m'aides à donner ton conseil comme il se doit. Je te demande cette grâce au nom de Jésus. Tu connais particulièrement et personnellement, Seigneur, toute personne qui a foulé le pied de cette salle ce matin. Ne permets pas que nous sortions d'ici tels que nous sommes entrés, Seigneur. Et tu connais celui qui te cherche particulièrement, tu sais, celui qui désire te connaître. Je te demande dans ta grâce de te révéler à lui de manière particulière. Je loue ton nom, Seigneur, parce que je sais que tu es fidèle. Je sais que tu accompliras ta parole dans des vies. Alors que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, parce que tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. L'homme, dans sa nature, aime bien connaître les choses. L'homme aime maîtriser les choses. Et lorsque les choses lui échappent, il est dans l'angoisse. Mais j'ai envie de te dire au moins une chose sur ton avenir. Tu peux le connaître. Est-ce que je suis un marabout pour te le dire? Loin de là. D'ailleurs, si j'étais un marabout, je ne serais pas dans la droite ligne de la volonté de Dieu. Parce que ce sont des choses que Dieu condamne. Je suis surpris lorsque je prends le train le matin ou lorsque je suis au bureau de voir beaucoup de collègues ou des personnes se précipiter sur les magazines gratuits et ouvrir rapidement sur la page de l'horoscope. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Ils veulent connaître leur avenir. Il y en a même plusieurs qui vous diront: je sais que ce qu'on y raconte n'est pas vrai, mais pourquoi se précipitent-ils donc pour savoir ce que leur prédit l'horoscope? C'est parce que quelque part au fond d'eux, ils veulent connaître l'avenir. Mais je vais te dire une chose, tu peux connaître ton avenir. Veux-tu connaître ton futur? Tel est le titre de ma prédication, de la prédication de ce matin. Mais ce que je vais te dire vient de la parole de Dieu. C'est une révélation divine. Et le Seigneur nous parlera au travers un homme qu'on appelle Noé, un homme dont on parle dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui en parle, pour attester la réalité des choses dont nous allons parler tout à l'heure. Il parle de Noé. Et non seulement Jésus en parle, mais ses disciples après lui soulignent encore qui était cet homme. Alors je vous invite à lire avec moi dans le Nouveau Testament le livre de Matthieu au chapitre 24, les versets 37 à 42. C'est Jésus qui, sur la terre, va parler au travers de ce texte. La parole de Dieu nous dit: lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporte à tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ. L'un sera amené, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule. L'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour le Seigneur viendra. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour le Seigneur viendra. Lorsque je lis ce texte, il y a deux choses qui me frappent. D'ailleurs, la première, c'est qu'il y a un événement qui se passe. Il y a un événement, et cet événement, c'est une grande inondation, un déluge. Et il y a une deuxième chose, c'est que je vois deux destins. Le premier destin, ici, c'est le salut ou la mise en sécurité. Et le deuxième destin, c'est la destruction. La parole de Dieu nous dit, avant le déluge, il s'est passé quelque chose, c'est que Noé est entré dans l'arche. Le déluge symbolisant ici le jugement de Dieu, je vois qu'il y a quelqu'un qui, au travers du, en tout cas, a pu échapper au jugement de Dieu avant le déluge, jusqu'à ce que Noé entra dans le bateau, nous dit le verset 38. Et je vois le sort d'un très grand nombre qui, pendant le déluge, ont été tous emportés. Alors, si le Seigneur nous parle de l'histoire de Noé, et il nous dit les choses se passeront comme telles, je peux être sûr d'une chose, je peux connaître mon avenir. Je peux connaître mon avenir, peut-être pas mon avenir immédiat, mais mon avenir pour l'éternité. Je peux connaître ma destination finale. Est-ce que là où tu es assis, tu connais ta destination finale? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons des choses éphémères, des choses qui passent. Mais je vais t'interpeller pour les choses qui durent, ta destination finale. Alors, Moïse parlant, Dieu parlant ici de Noé, va nous révéler certains faits que nous allons examiner ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé avant le déluge? Voici les faits. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse 6, au verset 5, 11 et 12, que je lirai à la suite, « L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre à longueur de journée. Leur cœur ne concevait que le mal. » Voilà le constat que Dieu du haut des cieux, lorsqu'il jette son regard à l'époque de Noé, va constater une poursuite permanente et effrénée vers le mal. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre et il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Oui, en résumé, les hommes concevaient, pratiquaient le mal, se livraient à la violence et à la corruption. Voilà des choses qui ont irrité le cœur du Père. Ces choses, non seulement ont été désastreuses pour les hommes, parce que lorsqu'un climat de mal et de violence s'installe, ce n'est jamais pour le bien de ceux qui le vivent. Mais en plus de cela, ces effets ont été pénibles pour Dieu. Pénibles pour Dieu parce que la parole nous révèle que Dieu a été attristé. L'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre et il en eut le cœur très affligé. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Genèse, au chapitre 6 et au verset 6. Et là, Dieu va se résoudre à une chose qui lui est pénible. C'est qu'il va se résoudre à détruire sa créature. Nous avons des enfants. J'ai des enfants. Je sais à quel point je peux m'y attacher. Et je pense que nous sommes tous pareils. Lorsque nous avons des enfants, nous nous y attachons. Lorsque nous sommes créateurs de quelque chose, nous accordons à cette chose une importance, une grande importance, et nous avons du mal à détruire nous-mêmes nos œuvres. Mais voyez dans quel dilemme le Seigneur va se retrouver. C'est un Dieu juste, et parce qu'il est juste, il ne peut se renier. Il a dit, l'homme qui pêche, c'est celui qui mourra. L'homme a beau être sa créature. À partir du moment où il a péché, il a désobéi, il a choisi ses propres voies, Dieu qui est juste et qui ne peut se dédire, se doit de le détruire. Quel dilemme! Quel dilemme! Mais Dieu, à raison de l'exigence de sa justice, va prononcer une sentence. Et voilà ce qu'il va dire. Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, il se persuade, parce qu'il va le faire. J'exterminerai les hommes. Et je vais jusqu'à la fin de ce verset. Il dit, car je regrette de les avoir faits. Sommes-nous de ceux qui causons du regret à notre Dieu? Le regret de nous avoir fait. Heureusement qu'il y a quelqu'un quand même qui va réjouir le cœur de Dieu dans cette situation pénible pour Dieu. Un homme qui, au milieu d'une génération perverse, une génération violente, une génération corrompue, va se distinguer par ses choix. Ces choix vont à contre-courant de toute la société dans laquelle ils se trouvent. Et je suis sûr que puisqu'ils allaient à contre-courant, ils devaient être l'objet des railleries, l'objet des moqueries, l'objet d'une indexation. Mais cet homme avait choisi de vivre comme son Dieu exigeait. Noé était un homme juste, nous dit la parole de Dieu, et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Nous le trouvons au verset 9 de Genèse 6. S'il est vrai que Dieu avait résolu en son cœur de détruire l'homme, et s'il est vrai que c'est une solution qui le peine, Dieu voulait quand même offrir à l'homme un moyen de rachat. Un moyen de le replacer dans la sécurité. Alors, qui est-ce qu'il va choisir? Il va choisir celui sur qui il peut mettre sa confiance. La parole de Dieu nous dit, « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit l'Éternel. » Et il l'invite à la conversion. L'Éternel dit, « Convertissez-vous, donc, et vivez. » Dieu, avant l'exécution de son jugement, va exercer ici la miséricorde. Il témoigne de la miséricorde en se servant donc du juste pour avertir et conduire son peuple à la repentance. La parole de Dieu nous dit, et ça je le découvre, je ne savais pas que Noé était un aussi grand prédicateur, mais la parole de Dieu nous dit, et c'est Pierre qui nous le confirme, il appelait ses contemporains à mener une vie juste. On le trouve dans 2 Pierre 2,5. Dieu ne veut qu'aucun homme périsse, mais que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Alors que Dieu choisit donc Noé pour construire l'arche, ce lieu de protection, ce lieu où le déluge, aussi violent soit-il, ne peut atteindre. Moïse, Noé. J'ai dit Moïse tout à l'heure ou pas? Hein? Désolé. Alors que Noé construisait l'arche ici, qui est le lieu où le peuple de Dieu se sentirait en sécurité, le peuple où tout homme qui s'y réfugierait se sentirait en sécurité, personne ne veut l'écouter. Tous, autant qu'ils sont, restent indifférents à l'appel de Dieu. Restent indifférents. Est-ce que c'est parce qu'ils n'attachaient aucune importance aux paroles de Noé? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient tout simplement incrédules? Était-ce tout simplement parce qu'ils se disaient « on a d'autres priorités que celles-là » ou renvoyaient-ils les choses à demain? Mais le résultat est là. On pouvait constater que les contemporains de Noé n'avaient rien fait pour entrer dans l'arche. Et la parole de Dieu nous dit « en effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger, à boire, à se marier, à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. » Est-ce que manger est une mauvaise chose? Non. Est-ce que se marier est une mauvaise chose? Non. Moi, ça fait 20 ans que je suis content d'être marié avec la plus belle femme qu'on trouve au monde. C'est mon point de vue, hein? Je vous laisse d'avoir les vôtres. Oui, marier, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est une institution divine. La parole de Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, marier, se marier, ce n'est pas une bonne chose. Je vois un couple marié vers le fond et qui ont l'air très heureux. Ils se cachent. C'est une bonne chose. Se réjouir, c'est une bonne chose. Et Dieu n'est pas contre ces choses, elles sont légitimes. Mais là où le bât blesse, c'est quand ces choses prennent la place de Dieu. Lorsque ces choses nous font oublier l'essentiel. Lorsque ces choses nous préoccupent au point où on ne pense plus à rien. Il y a des hommes qui, dès qu'ils se lèvent le matin, comment je vais faire pour être millionnaire? Il y en a d'autres qui se disent « comment je vais faire pour avoir toutes les belles femmes ?» Chacun se donne un objectif. Et dans cet objectif, ils y sont tellement concentrés qu'ils oublient leur Créateur. Et c'est ça que Jésus reproche. Jésus reproche aux contemporains de Noé. Il ne leur reproche même pas leur mauvaise vie. Parce que lorsque je reprends ce texte de Jésus, il ne parle que de ça. Il ne parle que des occupations que je peux qualifier de légitime. Qu'est-ce qui t'occupe? Et la parole de Dieu nous dit, si nous nous amusons à ne courir que derrière ces choses et ces choses uniquement, nous sommes en grand danger. Je disais tout à l'heure, veux-tu connaître ton futur? La parole de Dieu te dit, tu peux le connaître. Les choses se passeront comme au temps de Noé. Il y a eu un effet déclencheur qui était le péché et il y a une réponse divine qui était le jugement matérialisé aussi ou mis en relief par le déluge. Et la parole de Dieu nous dit, nous aussi nous vivons un temps et nous allons au devant de Dieu. Au devant de Dieu, et ce sera la même chose lorsqu'un autre effet déclencheur se réalisera. Qu'est-ce qui se passe à notre époque? Qu'est-ce que nous, nous vivons aujourd'hui? Et avant de dire cela, Dieu a exercé. Nous le verrons dans le texte que je viens de citer. Dieu a exercé son jugement. Il a mis au large un homme du nom de Noé et il a jugé une grande majorité. Et ce qui m'inquiète lorsque je lis ce texte, il dit « Ils ne se doutèrent de rien ». Nous sommes parfois tous aussi, et ce n'est pas une insulte, inconscients de ce qui est en train de se préparer. Une chose, deux choses même sont prêtes. Prêtes dans les lieux célestes. Une chose est prête. La première, c'est que Dieu est prêt à venir mettre à l'abri ceux qui sont les siens. Et la deuxième chose, c'est que Dieu est prêt à venir aussi juger ceux qui n'ont fait aucun cas de lui. Dieu, lorsqu'il observait les contemporains de Noé, a pu observer un certain nombre de choses. Mais s'il observe aujourd'hui, nous qui vivons à Créteil en France, notre réalité d'aujourd'hui est-elle différente de la réalité de l'époque des contemporains de Noé? Je vais juste prendre quelques exemples. Je suis arrivé en 85 en France. Je ne vous dis pas si je le faisais ou pas, mais je vous dis pour acheter un magazine dit pour adultes, pour ne pas dire pornographique, il fallait aller dans la partie la plus reculée du magasin, du kiosque, pour vous faire servir. Aujourd'hui, on les trouve en tête de gondole sur les panneaux publicitaires des kiosques à journaux, sans aucune considération pour les âmes sensibles ou les enfants. On vous dira au nom de la liberté, nous pouvons et nous devons l'afficher. Le péché est juste un clic de souris. Il suffit d'un clic de souris pour que vous entriez dans un univers abondant de péché. Lorsque Dieu regarde sur la terre et dans notre beau pays de la France, voilà ce qu'il peut voir. Et à l'instant même, si on entrait dans des maisons, si on entrait dans des chambres, on pourrait voir des horreurs que Dieu répugne. La violence, comme dans le temps de Noé, fait place partout. On la voit dans les foyers où, qui devaient être des lieux de sécurité, les lieux sécurisés, mais qui sont parfois les lieux de torture pour certaines personnes. La France, les chiffres officiels de la France au niveau de la violence faite aux femmes en ménage et communiquée par la police, fait état de 814 faits enregistrés, soit 2 faits par jour entre 2011 et 2012. Une femme est tuée par son conjoint tous les 3 jours en France. La violence est aussi rentrée. Et le Seigneur, lorsqu'il regarde dans ce beau pays, qui en apparence, eh bien, voilà ce qu'il peut voir. Lorsqu'il regarde notre jeunesse, elle est gangrénée par la violence. Les jeunes font de plus en plus de forfaits et très très tôt dans les quartiers. C'est parfois la loi des caïds. Qui est-ce qui gouverne le bas de ton immeuble? Est-ce que tu peux y rentrer en sécurité? Au collège, dans les lycées. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce que Dieu observe lorsqu'il nous regarde? En France, je parlais de manière plus large, on constate aussi une recrudescence des assassinats. Il suffit d'écouter ou de regarder sa télé. En Corse, comme à Marseille, c'est devenu une information récurrente. On a tué. Malgré les va-et-vient des ministres de l'Intérieur et de la Justice, en Corse comme à Marseille, malgré les déclarations et les intentions du Premier ministre, malgré la réorganisation des services de police et l'augmentation même, pour certains, des effectifs, rien n'y fait. La violence s'installe. Voilà ce que Dieu voit lorsqu'il regarde notre réalité en France. Je parlais de la violence et j'aimerais qu'on nous montre un tableau qui, oh, c'est trop petit, mais je vais vous le dire, qui parle de la violence en Corse. 11 assassinat en 5 mois, rien que pour l'année 2013. Ces assassinats concernent aussi bien les hommes que les femmes. Ils concernent aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Et lorsqu'on regarde cette carte, on voit que la violence va du nord au sud et de l'est à l'ouest. Rien n'est épargné. Voilà ce que Dieu voit lorsqu'il regarde la France. Et lorsque Dieu te regarde, que voit-il? Ça reste entre toi et Dieu. Que voit-il? Est-ce qu'il sera obligé de te détruire comme il a fait avec les contemporains de Noé? C'est terrible ce qui se passe dans le cœur. J'étais jeune. Et dans ma jeunesse, j'étais enfant de pasteur. En tout cas, je suis toujours enfant de pasteur parce qu'on ne peut pas détruire une filiation. Mais j'avais un ami, Richard. Cet ami aussi, fils de pasteur. Mais lui avait décidé de corrompre et de souiller tout ce qu'on appelait enfant de pasteur, fille de pasteur. C'était sa mission. Les draguer, coucher avec eux. Et il était beau, hein? Beau de figure. Et il a réussi certains de ses coups. Mais un jour, le Seigneur, certainement excédé par ce qu'il faisait, l'a arrêté net dans son élan. Mort de manière violente par un accident de circulation. Parce que je pense que dans ses projets, en plus, non seulement il ne se contentait pas d'avoir ses projets, mais il avait décidé de nous intoxiquer tous, nous les garçons de pasteur. Voyez, le mal, lorsque Jésus nous regarde, lorsque Dieu jette un regard sur la terre, que voit-il? Mais je veux te dire, sans vouloir dramatiser, la parole de Dieu dit, Noé dans sa génération parlait, invitait les gens à se conformer à la parole de Dieu, mais ils étaient tous sourds. Est-ce qu'il leur voulait du mal? Non. Est-ce que je veux t'indexer ici ce matin? Non. Mais c'est par amour que mon cœur parle. C'est par amour que mon cœur parle. Néglige-tu Dieu dans ta vie? Fait-il partie des choses accessoires ou fait-il partie de ce que tu considères comme essentiel? Je vais te dire ce qui est sur le point de se passer. La parole de Dieu, et j'aime la répéter, ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme reviendra. Ce sera la même chose. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, il y a alors deux ouvriers travailleront côte à côte. Dans un champ, l'un sera amené, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule. L'une sera enlevée, l'autre laissée. Peu importe le travail que tu fais, peu importe ton sexe, tu as un jour à te placer devant Dieu. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme reviendra. Ceux qui auront choisi de vivre différemment comme Noé, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire Moïse, comme Noé, dans sa génération, seront épargnés. Alors, permets-moi de te donner un conseil. Il ne vient pas de moi, il vient de la parole de Dieu. Ne te conforme pas au siècle présent, mais laisse Dieu te transformer par le renouvellement de ton intelligence afin que tu discernes ce qui est, quelle est la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ce qui est agréable, bon et parfait. Ne te laisse pas emporter par la vague. Noé était seul contre tous. On peut avoir raison contre la majorité. Je sais que dans ce pays démocrate, on nous dit qu'on ne peut pas avoir raison contre la majorité. Mais là, on a un exemple qui crève les yeux. Noé, avait raison contre toute la majorité. Et la parole de Dieu nous dit, comme des enfants obéissants, si tu as fait ce choix d'être enfant de Dieu, ne te conforme pas aux convoitises que tu avais autrefois quand tu étais dans l'ignorance. Tu as accepté de donner ta vie à Dieu. La parole de Dieu nous parle au sujet de Noé, que c'est chaque jour qu'il vivait en conformité avec la parole de Dieu. Oui, la grâce de Dieu, source de salut, doit t'enseigner à renoncer à tout ce qui peut choquer ton père. La parole de Dieu appelle ça l'impiété. À renoncer aux convoitises. C'est vrai que la chair, parfois, a des besoins. Et lorsque nous confrontons ces besoins à la parole de Dieu, nous voyons qu'ils ne plaisent pas à Dieu. Parfois, les yeux ont des besoins. Ils s'attardent sur des choses. Et lorsque nous réfléchissons et nous les confrontons à la parole de Dieu, nous voyons qu'ils ne plaisent pas à Dieu. De grâce, que le Seigneur nous aide à renoncer à ces choses. Et dans le siècle présent, comme Noé l'était dans son siècle, à marcher selon la sagesse et la justice de Dieu. Et nous devons, chaque jour que Dieu fait, attendre le Seigneur qui revient. Parfois on ne le dit pas suffisamment, mais le Seigneur revient. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 10 ans, 1000 ans? J'en sais rien. Le Seigneur dit par ailleurs, un jour devant le Seigneur, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Mais tout dans le ciel est prêt pour que le Seigneur puisse revenir en n'importe quel moment. S'il tarde à venir, nous dit la parole de Dieu, c'est parce qu'il use de patience envers chacun de nous, afin que nous ajustions notre comportement à ce que Dieu désire. Mon frère, l'heure est mauvaise. L'heure est mauvaise. Ce qui est sur le point de se passer. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça se passe demain. Mais je dis ça peut se passer demain. Seras-tu emporté par la vague du jugement de Dieu? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, voilà quelle doit être ton attitude. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus ne revient que pour ceux qui l'attendent. Tu ne seras pas sauvé par hasard. Tu n'iras pas dans le ciel par hasard. Tu iras dans le ciel parce que tu attends ton Seigneur. Et si tu ne l'attends pas, tu risques d'être jugé parmi les indifférents. Permettez-moi de vous raconter une dernière anecdote et j'espère qu'elle marquera vos esprits. Il y a un pasteur un jour qui est excédé par le comportement des chrétiens qui assistaient à son église. Chaque jour, il parlait du jugement à venir, il parlait de ce que Dieu va faire. Il leur citait la parole de Dieu et elle est abondante. Il disait, Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Et d'ailleurs, ici, c'est ce qui s'est passé. Les choses se sont passées en un clin d'œil, en un instant. Tout avait changé, tout avait basculé. Mais ces hommes menaient leur vie comme ils le voulaient. Alors ce pasteur excédé a fait quelque chose, je ne sais pas si Noé l'aurait fait. Il a pris un de ses chrétiens, il l'a caché dans une salle comme celle qu'on a ici. Avec une trompette. Il s'est mis à parler du retour de Jésus. Et dit, à un instant donné, à un signal donné, au son de la trompette, le chrétien caché a sonné la trompette à ce moment. Et je peux vous dire que dans l'église, on a assisté à un spectacle des plus terribles. Les gens qui montaient sur les chaises essayaient de s'envoler tout seuls au ciel. Mais je vous dis, ça ne se passera pas comme ça. En un clin d'œil, c'est par la puissance du Saint-Esprit qui vous transformera que vous irez vers le ciel. Dans la salle, c'était un bon foutoir. Parce que toutes les chaises étaient par terre. En un instant donné. Le pasteur regardait la salle, tout étonné. Oui. Mais ce jour-là, c'était un frère qui avait sonné la trompette. Mais Dieu, un jour, demandera à son ange de sonner la trompette. Iras-tu dans le ciel ou resteras-tu? L'un sera emmené, l'autre sera laissé. Je veux te laisser sur cette réflexion, cher ami. Les choses se passeront comme au temps de Noé. Je suis effrayé lorsque j'entends ça. Lorsque je regarde à ma vie, je me dis, Christophe, t'es enterré à marcher chaque jour selon la voie de Dieu. Mais est-ce que je dois compter sur ma force? Loin de là. Parce que par toi-même, tu ne peux rien faire. Mais la seule chose que tu peux faire, c'est de te conduire devant le Seigneur comme il le désire. Et s'il te manque de force, le Seigneur peut pourvoir à ta force. Si tu te sens faible, il peut te donner de la force. C'est quand je suis faible que je suis fort par la puissance de Dieu. Alors, ne sois pas celui qui va commencer à te culpabiliser parce qu'il y a des choses qui, dans ta vie, te dominent encore. Tu as ton Sauveur qui est venu détruire les œuvres du diable. Remets-toi à lui chaque jour autant que tu peux et tu verras combien le Seigneur transformera ta vie. Ce qui est sur le point de se passer, tu le sais. Tu connais ton avenir. Toi-même, tu le connais. Parce que dans ton cœur, tu as ce témoignage, si tu appartiens à Dieu ou non. Et si tu n'appartiens pas à Dieu, très rapidement, ne t'inquiète pas si tu te confies à lui. Les choses de ta vie vont changer et tu pourras connaître avec précision ta destination. Connais-tu ta destination? Je te demande de fermer les yeux. Je demande à l'Église de courber les fronts. Avant que les musiciens ne commencent, j'ai dit, je t'ai demandé de fermer les yeux, de courber la tête. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin et j'ai du mal parfois à faire ce genre d'appel. Parce que je ne veux pas que tu culpabilises alors que tu as donné ta vie à Dieu. Je veux vraiment faire le distinguo de celui qui n'a pas donné sa vie à Dieu et de celui qui l'a donné à Dieu. Si tu as donné ta vie à Dieu, la parole de Dieu est claire à tout ce qui ont reçu Christ. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si dans ta vie, tu as négligé le Seigneur, oui, j'aimerais t'appeler à remettre les choses en ordre devant ton Dieu. Et si jamais tu ne le connais pas, oui, là, je t'invite à le connaître et à faire entrer Christ dans ta vie. Et c'est ça, à ces deux catégories de personnes que je veux parler. Pendant que tout le monde garde les yeux fermés, je te demande, veux-tu renouer ta vie avec ton Seigneur? Si c'est le cas, lève ta main, je prierai pour toi. Merci. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu es celui qui, mieux que quiconque, connaît nos cœurs. Tu vois nos luttes, tu vois nos débats, tu vois combien on se débat parfois avec le mal. Mais Seigneur, nous savons que tu es la solution. Qui me délivrera de ce corps mortel? Nous savons que la solution se trouve en toi et je veux te présenter les personnes qui se sont levées ou qui ont levé leurs mains. Seigneur, afin que tu les touches par ta grâce. Que tu mettes dans leur cœur cette assurance qu'au retour de ton Fils Jésus, ils seront avec toi pour l'éternité. Qu'ils seront dans ce lieu de sécurité, Seigneur, que ton amour, que ton sacrifice à la croix de Golgotha. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que je sais que tu mets l'assurance dans leur cœur. Tu es un Dieu fidèle. Alors je te loue. Je te loue Seigneur, pour leur salut, pour leur sécurité. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus.
Sors de moi, ô Dieu. Connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Toutes tes voies pour l'éternité.